Des recherches, un pays, une métamorphose, c'est la règle de trois de Marc Lazare. Depuis 1970, soit au début de ses études supérieures, le domaine de recherche de Marc Lazare concerne l'histoire et plus précisément l'histoire associée à la politique. En 75, il soutient une maîtrise consacrée à l'ARAC, une association d'anciens combattants issus du mouvement ouvrier, et fondée au sortir de la Première Guerre mondiale par l'écrivain Henri Barbus, comme l'explique ici Jacques Duclos.
Il y avait une formule qui était employée. Et on disait, par exemple, à pension, à blessure égale, pension égale, la jambe d'un soldat vaut celle d'un général.
Aujourd'hui, Marc Lazare est professeur d'histoire et de sociologie politique. Il dirige également le centre d'histoire de Sciences Po à Paris. Le pays dont il est fin connaisseur, l'Italie, lui vaut d'être régulièrement invité dans les médias depuis plus de 25 ans. La règle est simple, un bouleversement politique en Italie, une interview de Marc Lazare en France. L'accession de Berlusconi au pouvoir en 1994.
Il réussit un miracle à l'italienne qui consiste à mettre ensemble la Ligue du Nord qui est hostile aux méridionaux avec un mouvement qui recrute essentiellement dans le sud, c'est-à-dire l'Alliance nationale.
La victoire de Romano Prodi aux législatives de 2006.
Du côté de Silvio Berlusconi, on a beaucoup insisté, comme d'habitude, sur la question de l'individualisme. Alors que du côté de Romano Prodi, on a plus insisté sur les formes de solidarité.
La percée du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo après l'éphémère gouvernement Mario Monti en 2013.
La défaite est terrible pour Monti, terrible. Les Italiens lui ont présenté la facture d'une année de gouvernement et cette facture est très salée.
Si l'on en croit son dernier ouvrage écrit avec le politologue italien Ilvo Diamanti, la métamorphose de nos démocraties est engagée. Il l'appelle la peuplocratie. Pour résumer, la peuplocratie est l'organisation de la démocratie autour de la souveraineté illimitée du peuple. L'Italie serait encore une fois un laboratoire. Après l'accession de Mussolini au pouvoir avant le fascisme hitlérien, après la personnalisation et la médiatisation de la politique par Berlusconi qui annonçait le style Trump, la peuplocratie de Salvini et Di Maio aurait déjà infusé la politique française.
Capillairement, c'était chouette, Marc Lazare.
Mais alors, Marc Lazare,
oui, 2019, c'est une année cruciale. C'est le 40e anniversaire de la première élection au Parlement européen. Comment construit-on un peuple européen, Marc Lazare?
Ça, c'est effectivement, je crois, depuis la construction de la communauté économique européenne, en particulier depuis le traité de Rome 1957, c'est la grande question, puisque la construction européenne a reposé d'abord sur l'idée qu'il fallait commencer par l'économie, puis ensuite la politique. On en est loin, mais on en est loin parce qu'on n'a pas réussi à trouver les formes politiques de la construction de ce peuple européen. Mais j'aime bien aussi la formule du Timothy Garton-Ash, qui est professeur à Oxford, qui est un grand spécialiste des questions européennes, et qui dit l'Europe, c'est pas simplement le problème de Bruxelles, c'est le problème de Babel, c'est-à-dire de la nécessité d'arriver aussi à trouver des langues communes. Mmh. Et donc, je crois, moi, que bien sûr, il n'y a pas encore de peuple européen, mais il y a de plus en plus une forme, une fraction du peuple, une partie des élites, comme on dit, qui sont aujourd'hui vilipendées, discréditées, haïes, détestées, tout ce que vous voulez, mais qui voyagent, qui connaissent l'Europe, etc., etc. Donc, on en est loin. On en est loin, mais ça reste une de ces utopies qui, justement, peut encore mobiliser. En tout cas, il faut peut-être l'espérer.
Et justement, ces élites dont vous parlez, est-ce qu'elles sont, selon vous, en partie coupables de l'éclosion et du développement du populisme? Hubert Védrine dit « le populisme, c'est la mesure de l'échec des élites européennes ». Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, enfin, je pense pas que ça soit d'ailleurs que les élites européennes, parce que la grande caractéristique des populismes aujourd'hui, c'est que c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée, et avec une extension mondiale.
Ça,
c'est une des grandes transformations par rapport aux expériences du populisme du passé, parce que le populisme, c'est pas récent, ça s'ancre dans une histoire qui commence à la fin du 19e siècle, comme on le rappelle dans le livre, en Russie, en France et aux États-Unis. Mais oui, bien évidemment, quand on a un tel mouvement de protestation, de détestation, d'irritation, d'exaspération, qui frappe toute une partie de nos sociétés, il y a un problème de relation entre ces populations qui ne se sentent plus représentées. Ça, le mot est capital, de représentation du peuple. Et justement, une des réponses des populistes, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la représentation, mais on a l'incarnation à travers la figure en général d'un leader. Ce que refuse d'ailleurs, puisque vous évoquez la couleur du livre par rapport aux gilets jaunes,
ce que refuse les gilets jaunes. Absolument.
Mais les populismes politiques, aujourd'hui, considèrent que l'incarnation, c'est la solution.
C'est la clé. Alors précisément, on va parler de quelqu'un qui incarne ces idées, Matteo Salvini, ce week-end en Italie, Marc Lazare.
Oui, donc le vice-premier ministre italien et ministre de l'Intérieur, c'était vendredi, donc il est en pleine tournée électorale. Il fait escale à Forlì Ça se trouve en Émilie-Romagne et il prononce donc un discours au balcon de l'hôtel de ville. Et ça n'a absolument rien d'anodin puisque c'est depuis ce même balcon que Mussolini avait assisté à l'exécution de ses opposants. C'était dans les années 20. Ils avaient été pendus au réverbère. Ici, il n'y a pas de fascistes. Il n'y a que des personnes qui sont fières d'être italiennes. C'est ce qu'il a lancé à la foule qui était divisée entre applaudissements et huées. C'est pas tout à fait nouveau parce qu'il est plutôt, c'est un habitué de ce type de provocation sur les symboles. L'an dernier, par exemple, jour anniversaire de Mussolini, il avait écrit sur Twitter « Tellement d'ennemis, tellement d'honneurs », référence évidente au « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs » du même Mussolini. Comment comprendre ce qui s'est passé là ce week-end et ces autres provocations? Est-ce qu'il s'agit uniquement de provocations? C'est une stratégie de communication? Comment comprendre cette personne et ses références à l'histoire, la pire histoire de l'Italie?
Je crois que Salvini fait des clins d'œil explicites, et cet été c'était subliminaux aussi, c'était des, si j'ose dire, des attitudes subliminales, notamment lorsqu'il se présentait torse nu.
Sa manière de poser avec les bras poser, sur les hanches.
Parce que ça évoquait pour beaucoup d'Italiens les fameuses photos de Mussolini qui était torse nu en train de faire la moisson. Ou quand vous regardez la manière dont il rentre dans les villes et qui se fait acclamer, moi j'ai présenté ces documents à des spécialistes de l'étude fasciste, on dit c'est comme Mussolini.
Alors, pourquoi le fait-il?
Alors, je pense qu'il s'adresse à une partie de la clientèle italienne. Il y a toujours une population pro-fasciste, nostalgique du fascisme. Il ne faut jamais oublier que la principale formation d'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, qui a servi de parti modèle à tous les partis d'extrême droite, a commencé par le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'était le mouvement social italien, qui a disparu aujourd'hui. Mais il fait allusion à ça. Je pense qu'il essaye de conquérir comme ça une partie de cet électorat. Mais attention, je pense que ce serait une erreur de penser que Salvini est un fasciste. Est un fasciste.
Oui, l'analogie avec les années 30, vous la trouvez opérante?
Moi, je la réfute. Il y a des éléments, effectivement, suggestifs de comparaison.
C'est un opportuniste.
Et pour ce qui concerne Salvini, je pense qu'il y a une forme d'opportuniste, sachant que son projet véritable, c'est d'essayer de constituer soit un parti, soit une coalition qui sera dominante, qui ira du centre, parce qu'il est en train de s'emparer de tout l'électorat centriste qui votait jusqu'ici pour Silvio Berlusconi, pour Forza Italia, qui est aux alentours de 8% maintenant, et d'aller jusqu'aux confins de l'extrême droite. Pour autant, je ne pense pas que le danger principal soit un retour du fascisme, pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans une période complètement différente. Le fascisme, c'est une entreprise totalitaire qui repose sur des candidatures aux élections et de la violence physique. Et Salvini a toujours condamné la violence physique, en tout cas pour le moment.
Même à
l'occasion des Gilets jaunes, par exemple, il s'était différencié de Luigi Di Maio, le dirigeant du mouvement 5 étoiles qui était lui en France.
Qui est en perte de vitesse.
Voilà, et en disant « moi, je condamne la violence ». Et puis c'est une entreprise totalitaire aussi au sens de la volonté de forger un homme nouveau. Oui. Pas simplement de changer les conditions dans lesquelles vivent les hommes, mais de changer la matière humaine. Ça, c'est le projet par excellence du totalitarisme.
On n'en est pas là.
Et puis, troisième élément, le fascisme mussolinien, c'était la puissance de l'État. Or, Salvini est obligé de faire alliance avec le mouvement 5 étoiles, mais il est plutôt sur des positions, entre guillemets, néolibérales d'un point de vue économique.
Une dernière question pour revenir à l'Europe. La manière dont elle doit impérativement se réinventer, se renouveler, trouver un nouveau projet. Vous évoquez quelque chose qui est très singulier et très concret, un Erasmus des apprentis à l'échelle européenne. Vous avez entendu parler de ça et vous trouvez que c'est une idée formidable. Parce qu'Erasmus, tel qu'on l'a connu avec les étudiants, était sociologiquement beaucoup trop homogène et ne concernait pas les plus modestes.
Exactement. Alors, ce n'est pas moi, l'idée d'Erasmus.
Pas vous,
alors, il y a
vous,
un programme qui s'appelle Leonardo dans l'Union européenne que personne ne connaît, qui est encore très peu utilisé. C'est l'organisation patronale italienne, allemande et le MEDEF qui sont en train de réfléchir là-dessus pour essayer de faire circuler les apprentis. Ceux qui ont été exclus du système scolaire, ceux qui aujourd'hui sont les plus réticents, pour ne pas dire les plus sceptiques, pour ne pas dire les plus hostiles à l'Union européenne, parce qu'ils sont les victimes de la globalisation, qui considèrent qu'il y a une européanisation qui les met en difficulté. Et donc l'idée, ce serait de permettre à ces jeunes de comprendre comment on travaille en Allemagne, si on vient d'Italie, en circulant.
Comment on vit.
C'est très difficile à instaurer, mais ça m'a paru toujours une idée très concrète, sachant que la peuplocratie débouche sur une alternative très claire.
C'est démocratie illibérale.
D'un côté. Ou capacité de la démocratie libérale et représentative à se réinventer. Mais la démocratie libérale, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose comme ça qui est en l'air. C'est au cœur de l'Europe en train de se réaliser avec la Hongrie et la Pologne. Et nous ne disons rien. Nous ne disons rien. Et pour vous donner un exemple, le gouvernement hongrois veut vérifier dans les universités de son pays ce que l'on enseigne en histoire. On en est là. Et de voir les programmes et ce qui ne pourrait être accepté, ce qui devrait être refusé.
Il est moche, il est jaune, il peut sauver des vies. Vous rappelez ce slogan? Vous rappelez de ça?
Oui, absolument.
Karl Lagerfeld pour le gilet de la sécurité routière. Voilà. Peuplocratie, Marc Lazare et Yvelot Diamanti chez Gallimard. Merci infiniment.
Merci.